sur l'Eucharistie, que vous pouvez faire tout seul quand vous serez chez vous, c'est de prendre par exemple le thème du silence et de regarder le silence de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ce serait très fort. Faites une fiche du silence, dès que vous repérez le mot silence, ou tout ce qui se rapporte un peu au silence, faites une fiche. Et vous voyez cette espèce d'immense progression du silence. Parce que vous voyez, la parole de Dieu nous mène au silence du Verbe de Dieu, du Christ d'abord sur la croix, quand son cœur s'ouvre et qu'il est mort. Et ce silence nous mène au silence du Verbe qui se repose dans la passivité substantielle de l'Esprit Saint. Donc le silence est un mot-clé pour l'Eucharistie, je tiens à vous signaler. C'est pour ça que c'est bon, très très bon, si on en barre pour le silence. C'est bon, c'est le vieil homme qui... C'est le tam-tam du vieil homme. Silence, c'est dur. Remarquez bien... Oui, parce que le silence, attention, il y a plusieurs manières de faire le silence. On peut avoir un silence stoïcien. Je suis quand même capable de me taire. Je suis capable de me taire. Silence stoïcien. Il y a le silence parce que on a soif intérieurement. On est un être humain. Alors, on est un être humain, donc on a une soif intérieure, humaine. Il y a le silence religieux parce qu'on est un adorateur. Le silence chrétien, puis le silence de la Trinité, les cinq, pas toujours, cinq, c'est merveilleux. Pourquoi est-ce qu'on a cinq doigts dans une main? Ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher mon cœur. Ô méditation sur biblique, sur l'Eucharistie. J'ai pas pratiquement pas eu de questions, hein, puisque apparemment tout le monde est d'accord, tout le monde suit. C'est très bien, et bien puisque c'est comme ça. Personne ne se pose de problème métaphysique, donc on peut continuer, on peut continuer avec allègrement, n'est-ce pas, dans la voie que la Providence nous a fixé, et puisque nous en étions arrivés, vous voyez, donc il faut reprendre ici, vous voyez, l'intérêt, j'aurais voulu tout de suite aujourd'hui démarrer sur le Nouveau Testament, mais comme on n'avait pas fini, il faut quand même terminer sur l'Ancien Testament. Et donc vous voyez que ce qui s'est passé, ce que nous avons fait hier, nous avons regardé le pain, à travers l'alliance fondamentale. Le pain apparaît après le péché. Le lien entre la poussière, le corps et la mort. Première alliance avec Adam. Deuxième alliance avec Noé. Troisième alliance avec Abraham par la foi. C'est la foi qui justifie. La foi n'est pas facultative. Vous voyez ? La foi, c'est un commandement de Dieu. C'est pour ça que c'est un péché de ne pas avoir la foi. C'est mal de ne pas avoir la foi. Parce que c'est le refus d'obéir à la volonté de Dieu qui donne tout ce qu'il a. On se met en dehors. C'est curieux. Et c'est par la foi, c'est pour ça que la foi réclame une obéissance. C'est pour ça que dans le monde d'aujourd'hui, c'est si difficile d'avoir la foi, parce que nous sommes les petits-fils, n'est-ce pas, de Hegel. Pas l'oublier. Donc, chez Hegel, vous avez l'aphorisme du maître et de l'esclave. Compare l'intelligence humaine d'Abraham qui est l'esclave. Et d'obéir. Tandis que Jésus, c'est le maître. Jésus, il nie tout le temps par la négation. N'est-ce pas? Voilà. Vous voyez? Donc la foi a vieilli par l'obéissance. Le petit bébé qui obéit à son père, ou à sa mère, et qui a un amour prodigieux pour lui, il se grandit. Quand on obéit, ça dépend. Dès que vous obéissez, c'est obéir. Je vais au-devant de celui que j'aime. C'est ça l'obéissance. L'obéissance structure l'amour de l'intérieur. Quelqu'un qui n'aime pas n'obéit pas. Et c'est pour ça que la foi ne peut plus pénétrer dans le monde d'aujourd'hui à cause de Hegel. Parce que pour Hegel, l'amour n'est pas humain, ça rend esclave. Et l'homme est rendu Dieu par la dialectique de l'esprit. Il faut critiquer. Il faut être autonome. Comme si l'autonomie de l'homme était abîmée par l'amour de quelqu'un qui est plus grand que lui et qui lui donne cette liberté et qui lui donne l'être. Mais toujours est-il que vous avez l'alliance avec Abraham. Et nous avons vu à partir des textes qu'apparaît de plus en plus le point de vue de l'assomption. Corps par l'âme, puis l'assomption dans l'Eucharistie. Puis l'assomption de la chair par la grâce dans l'Eucharistie, c'est ce que nous avons vu. Alliance avec Abraham, puis ensuite alliance avec le législateur, Moïse, enfin alliance avec le roi et les prophètes, le mystère de l'âme. Et donc nous avons la structure, nous avons vu cette espèce de début tout simple, et puis l'Eucharistie qui ne cesse de porter l'humanité dans, justement, sa désobéissance, c'est-à-dire sa difficulté énorme à rentrer dans l'amour, à aller toujours au-devant de celui que j'aime, et obéir. Qu'il est plus grand que moi. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui est plus petit que moi. Ça, c'est une chose très importante à comprendre. Vous voyez? C'est pour ça qu'on n'aime pas son chien, c'est-à-dire on n'obéit pas à son chien. On obéit à quelqu'un qui est plus grand que nous, qui ne l'est pas. Mais par rapport au chien, on le respecte. C'est-à-dire, on respecte le fait qu'il soit un chien. Et du coup, c'est ce que dit saint Thomas, la manière d'aimer, la manière humaine, ce que tu as, pardon saint Thomas, parce que j'en pense, c'est Aristote qui dit que la manière humaine d'aimer dans l'univers, si ce sont des êtres inférieurs à nous, on les aime en les contemplant, on les aime par la connaissance. L'homme se grandit par la connaissance des êtres qui lui sont inférieurs. Et il se grandit par l'amour, donc l'obéissance, par rapport aux êtres qui lui sont supérieurs. Et lorsque je me lie à une autre personne humaine, c'est forcément quelqu'un qui me dépasse. Et donc je me mets relatif à celui que j'aime, sinon c'est pas de l'amour. Du moins, c'est pas de l'amour humain. Vous voyez ? Le titre Nicomaque d'Aristote montrera ça de manière prodigieuse. Je suis face à quelqu'un, et comme je ne perçois pas de l'extérieur, mais voyez, quand il dit la chair, liée à toute la dignité de sa personne, qui se noue dans un immense mystère, du point de vue de l'être. C'est abyssal. Alors, c'est un abîme qui s'ouvre. Alors, je suis relatif. Alors, du coup, ça me grandit, parce que là, tu as toujours quelque chose, sinon je ne peux pas l'aimer. Et l'amour, rechoisir tous les jours celui qu'on a choisi, ça veut dire faire cette espèce d'ascèse anti-hégélienne. Comme vous n'avez jamais lu Hegel, ça ne vous dit rien du tout. Mais, enfin, sauf ceux qui l'ont lu, n'est-ce pas, oui. Sauf ceux qui ont milité dans l'hégélianisme, ou l'anti-hégélianisme, parce que le marxisme, c'est du matérialisme hégélianique, c'est en réaction violente face à Hegel.
Oui, d'accord, je pense toujours à Marx. C'est surtout le marxisme
qui nous a oui, ça dépend des gens. Aujourd'hui, la jeunesse est imbibée surtout par une conséquence de Hegel. Hegel a éclaté. Sept néo-hegelianismes, si vous voulez, un du point de vue de la praxis. Et aujourd'hui, les jeunes qui sont. C'est un peu la rampe, sont Nietzsche. C'est Nietzsche. Alors ils mettent une opposition, là où il y a une complémentarité, au niveau de la création. Si je veux être créateur d'encore, contenir, alors ça va être pour mieux dehors le créateur. Parce que si Dieu est créateur, je ne suis plus créateur, je ne suis plus homme. Il y a une espèce de dialectique. C'est une espèce de parasitage qui s'est fait par... les idéologies, vous lisiez Glucksmann, tout ça, ou Clavel qui avait déjà pensé ça avant sa conversion au catholicisme et qui a continué à le faire après sa conversion au catholicisme. Donc Glucksmann, qui vous savez, un 68 art de ma génération. 68 art sympa, moi aussi j'étais dans les rues de Paris en 68 art. Bon. Alors, donc vous voyez. Voyez, c'est ça qui est assez extraordinaire, de voir que l'Eucharistie est déjà dans cette espèce de grande montée, et l'Eucharistie va récapituler donc par le point de vue le plus bas, vous voulez, ce qu'il y a de plus haut. Voyez, et nous avons dans l'ensemble de l'économie divine cette montée jusqu'à l'incarnation. Et vous voyez, parce que cette grande prophétie de l'Eucharistie se trouve réalisée pour la première fois dans le mystère de l'incarnation. Le Verbe de Dieu s'est fait chair. Le Verbe de Dieu. Et donc c'est si difficile de comprendre le mystère de l'Eucharistie si on ne comprend pas, si on n'a jamais rencontré Marie. Quelqu'un qui n'a jamais rencontré Marie ne peut pas rentrer dans le mystère de l'Eucharistie. C'est sûr. Bon, alors vous voyez, comme tout ça est à la fois très, très, très extraordinaire, puis en même temps très. Il y a une sagesse, tout ça est parfaitement ordonné, ça c'est extraordinaire hein, de voir ça petit à petit. Bon, continuons donc la chose. Nous en étions arrivés donc à David, puis ensuite, on avait dit. Élie pour les prophètes. Donc, vous voyez, les prophètes, vous voyez, c'est le Christ, lui, vous voyez, il faut voir que toutes ces alliances successives, l'alliance avec Adam dans une plénitude de bien, de grâce originaire, sans aucune trace, j'allais dire, de fêlure métaphysique, des séquelles du péché originel qui sont en nous. Ça, vous voyez, c'est le dogme de la foi le plus facile à croire, puisque nous expérimentons tous les séquelles du péché originel. Ça, le péché originel, c'est la chose la plus facile à croire, puisqu'on l'expérimente psychologiquement. C'est pas normal, c'est ce que dit Aristote, c'est affolant de voir que toutes les réalités naturelles que nous constatons sont orientées vers leur bien, vers leur plénitude. Et la seule réalité de l'univers qu'on constate qui ne s'oriente pas vers sa finalité naturelle, c'est l'homme. Il est plus en propension par rapport à son autodestruction, par rapport à son bien. C'est la seule réalité naturelle que nous constatons comme ça. C'est ce que dit Aristote. Et il dit, c'est incompréhensible. Pour le philosophe, c'est incompréhensible. Et même Hegel est d'accord avec Aristote là-dessus. Raison, Aristote, but. Mais Hegel est d'accord parce que il est protestant. Pas l'oublier. Il est protestant. Donc il est fidéliste, vous voyez. Donc il refuse le créateur. Il refuse le point de vue de l'être. Oui. Aristote qui dit qu'il n'y en a qu'un qui forme, c'est Aristote. C'est Hegel qui dit. Donc si vous voulez être respirer, intelligent, faut rentrer, faut s'aider avec Aristote, parce que c'est le seul qui parle à partir de l'expérience, pas à partir des idées. Le philosophe a horreur des a priori. Tu n'as pas le droit, si tu es philosophe, de dire autre chose que ce que tu expérimentes réellement, pas psychologiquement, réellement. Bon. Alors, voyez bien que ça ne marche pas avec la grâce originelle. Avec la pénitence, ça ne marche pas non plus. Ça aboutit au déluge. Avec l'alliance paternelle, du père, de la famille, etc., ça ne marche pas non plus. C'est la débandade, ça aboutit à l'Égypte. Alors du coup, on prend le peuple et le législateur. Ça ne marche pas avec la Torah. C'est la débandade, on arrive avec les rois. On est obligé de mettre un roi du coup. David, etc. Ça ne marche pas avec les rois. Regardez la débandade au bout d'un certain temps de l'alliance avec les rois. Alors du coup, les prophètes sont là pour rappeler à la royauté et au peuple d'Israël que ce qui compte avant tout, c'est l'amour. C'est de rappeler la primauté, toujours, de l'amour et que l'amour passe par le dépassement de nous-mêmes dans la souffrance. L'amour fait qu'on enfante dans la douleur. L'homme s'enfante lui-même par l'amour. Et c'est dans la douleur, c'est sûr. Dans les larmes. C'est incompréhensible, hein. Philosophiquement, aucun philosophe n'a pu, voyez. C'est vrai, on bute là, hein, sur quelque chose. Parce qu'au point de vue sagesse naturelle, c'est drôlement embêtant. Tout s'explique. Mais pour l'homme, on comprend qu'il y a une immense dignité de l'homme, ça on le comprend. On comprend qu'on doit lutter pour ça. Mais on n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'avec ses seules forces vives, il n'y arrive pas. Globalement. Alors, il y a la révélation qui nous dit des séquelles du péché originel. Ouais, mais enfin, c'est la révélation. Alors, eh bien, Jésus, lui, va reprendre, si vous voulez, Jésus va reprendre, notamment par le point de vue du mystère de l'Eucharistie, par le point de vue de son incarnation, il va reprendre toutes ses alliances. Ce sera en même temps le prêtre, voyez, le prophète, le roi, le père et le nouvel Adam. Seulement, ce ne sera pas successif. Tout est rassemblé en lui. Voyez ? Alors, c'est pour ça que la lecture de l'Ancien Testament est quelque chose de prodigieux. Parce que on lit toute cette dimension du Christ. Voyez ? L'aigle, le visage de l'homme, le taureau, n'est-ce pas ? L'aigle. Oui. Les quatre aspects des quatre évangélistes, si vous voulez, les quatre animaux de l'Apocalypse, qui sont Enopion tout trône, c'est-à-dire donc à l'intérieur du trône, en extase, par rapport à cette espèce de feu ardent du fait qu'il est en même temps le spirateur. Il faudra qu'on vienne dessus, si on a le temps, parce que malheureusement, c'est pas une retraite de 5 jours, mais il spire l'esprit. Bah Très bien. Inspiration de l'esprit, ça.
Oui, oui, on va venir là-dessus.
Inspiration. Quand tu aimes quelqu'un, tu deviens son bien. Quand tu aimes quelqu'un, tu deviens son bien. Et donc, s'il t'aime en tout cas, c'est que tu l'attires. Et tu ne peux attirer quelqu'un que si tu es, par rapport à lui, quelque chose de bon. Quelqu'un qui est bon attire. C'est pour ça que Dieu nous attire.
On résiste par l'orgueil, on met la marche arrière, le frein à pied, tout. Mais malgré tout, une attraction.
Et pour éviter tout en moi, aucune résistance. Oui, oui, d'accord, mais on a bien staché au pare-choc derrière des bons câbles. Pourtant, je mets en première, je mets le crapaud, je mets le réducteur, je mets les quatre roues motrices, et hop, oui, mais il y a le câble. Eh oui, c'est vrai. Mais on est quand même attiré par la bonté suprême de Dieu, puisque l'amour éternel nous attire. Ça, c'est sûr. Donc, dès que tu aimes quelqu'un, c'est parce qu'il t'attire. Et donc, il est plus grand que toi. Forcément, ce que je dis, c'est pareil. Il y a une espèce d'aspiration. Et du coup, tu ne peux plus vivre pour toi-même. C'est l'autre. Et donc, tu expires. Et du coup, en expirant lui, tu viens être pour lui comme une inspiration. Eh bien, l'aspiration, c'est l'inspiration, l'expiration, l'aspiration au carré. Ça va? Parce qu'on est deux. On est deux. Ouais, ce serait très joli de regarder au point de vue sémantique, hein?
Expiration, inspiration et aspiration. Tu vois bien, c'est ça, c'est pas nul.
Et vous êtes deux,
donc au carré.
Communion des personnes.
Ça fait expiration. C'est le seul mot qu'on a trouvé pour voir que entre le Père, dans la très sainte Trinité, il y a un seul Dieu. Comment expliquer que dans la très sainte Trinité, il y a un seul Dieu et trois personnes. Et chacune des trois personnes est Dieu unique à lui tout seul. Comment expliquer ça? Hein? Eh bien, ça s'explique par l'amour. Parce que Dieu est amour. L'être de Dieu, c'est l'amour. C'est pour ça que c'est l'unique nécessaire. Il se suffit à lui-même parce qu'il est tout amour. Mais s'il s'aime lui-même dans un repli sur soi total, c'est plus l'amour. C'est de... Alors il faut connaître ce terme très important.
Le contraire de l'aspiration, c'est l'ipsisme. Ipsisme. Ipso. Ipsisme. C'est ipso,
moi, moi-même, en moi-même, isme. Donc c'est l'idéologie du moi qui se retourne sur le moi-même, dans le moi-même. Aucune. C'est moi, aucune. C'est le contraire de l'aspiration. Ipso, l'ipsisme. Ipso, c'est ipso. Ipso, ipso, c'est moi-même. Ego, ipso, moi-même. Pourtant, je viens de l'expliquer. L'expiration, tu meurs dans l'autre. C'est ce que vit l'autre que tu veux vivre. Sinon, tu l'aimes pas. Ah, du coup, tu expires. Ah ben, du coup, puisque tu expires dans l'autre, tu viens l'habiter. Et donc, tu inspires. L'aspiration, c'est que tu l'attires. C'est simple.
Donc il y a une expiration
Non, c'est pas suivi. C'est simultané. C'est pour ça que... Mais quiconque a aimé, il comprend ça tout de suite. Bon. Non, non, mais ça veut dire. Bon. Dès que tu fais un acte d'adoration en esprit en vérité, c'est ça que tu vis. Jésus meurt en toi, tu meurs dans le Christ. Jésus t'attire, Jésus s'est laissé happer par toi. Et puis du coup, ça fait une espèce de... Hein? Oui, d'accord, mais enfin, tu comprends. Pourquoi? Et on me pose la question, pourquoi spiration? J'explique spiration. Et dans la très sainte Trinité, eh bien, il est bien évident qu'il y a une personne, Dieu est un pur esprit, et donc, il a une activité. Il n'est pas là en disant, ah, je suis Dieu, les mecs. Il est vivant. Dieu est honnête, pleinement vivant. C'est une vie parfaite. Or, il est pur esprit, donc il se... Un esprit, qu'est-ce qu'il fait? La chose la plus grande de la vie spirituelle, c'est de contempler. Donc Dieu contemple Dieu. Quand Dieu contemple, c'est le principe, le Père. Dieu contemple, c'est le Père. Il contemple qui? Il contemple Dieu. Dieu est contemplé, c'est le Verbe, le Fils. La contemplation de Dieu est tellement parfaite que quand Dieu contemple, c'est une personne. Parce que celui qui contemple est toujours séparé de celui qui contemple. C'est pour ça qu'il y a une distinction radicale, parce que la contemplation en Dieu est forcément parfaite. Donc il y a une séparation qui va jusqu'à la substance en Dieu. Sinon, sa contemplation n'est pas divine. Sinon, il n'est pas Dieu. Et du coup, le Verbe de Dieu. Oui, quand tu contemples quelqu'un, tu es face à lui. Donc, c'est un autre. Comme la contemplation en Dieu est parfaite, quand Dieu contemple, il est donc séparé, sous un certain rapport, de celui qui contemple. Et qui est contemplé? C'est Dieu qui est contemplé. Donc il y a une distinction qui va jusqu'à la substance entre Dieu qui contemple et Dieu qui est contemplé. C'est pour ça qu'il y a cette double hypostase en disant il y a le Père, il y a le Fils. Il y a Dieu qui contemple, le principe de toute sa vie contemplative en Dieu, et puis celui qui contemple, le Verbe. Quand vous contemplez, apparaît, si vous vous contemplez vous-même, apparaît en vous un fantasme qui vous représente intérieurement, et à partir de ce fantasme, un concept de vous-même, et dans ce concept, un verbe de vous-même, et vous contemplez ce verbe de vous-même. Si vous vous contemplez vous-même, il y a un processus, par le jeu de l'intellect possible et de l'intellect agent, actif, hein, qui fait que naît un verbe en vous. Mais nous, quand nous nous contemplons nous-mêmes, le verbe de nous-mêmes est très débile. Tandis qu'en Dieu, la contemplation est parfait. Et donc ce verbe n'est pas du tout débile. Et par conséquent, c'est effectivement Dieu qui est contemplé. C'est pas un petit fantasme. Parce qu'il n'y a pas de fantasme en Dieu. Il y a tous les gens qui ramènent au point de vue psychologique la fin. Ils ne peuvent pas être croyants. C'est à ça que vous reconnaissez quelqu'un qui est croyant, quelqu'un qui n'est pas croyant. Ramenez tout au niveau de l'image. On ne peut pas faire autrement. On est né dans ce milieu-là. Je disais ça à quelqu'un hier. Moi, je ne suis pas, personnellement, vous non plus, nous ne sommes pas nés dans un monde où c'est l'image tout le temps. Pas du psychologique tout le temps. Les gens vivaient normalement, quoi. Il y avait une vie familiale qui était normale. C'était pas du tout les idéologies. Enfin, bon, je me rappelle, j'étais petit, mais quand même, ça me marque quand même, puisque j'avais jusqu'à 12 ans. On entendait peut-être la radio une fois. Ah oui, c'est ce que je disais, mon papa mettait la radio une fois par jour. Alors, c'était le silence. Le seul moment de silence, c'était la radio.
risque de dire. Écoutez la radio. Geneviève Tabou. Vous n'avez pas connu Geneviève Tabou. Au revoir, mes amis, et à dimanche prochain pour les dernières nouvelles de demain. C'est ça? Bon, alors, voyez? Mais sinon, pour tout le reste, on avait une vie normale. Tandis qu'aujourd'hui,